Chapatin, le tueur de lions. Chapitre 1. D'abord la vérité sur Chapatin. Quoi qu'en disent les gens de Beaucaire, ce n'est pas à Beaucaire qu'est né Chapatin, le seul Chapatin, l'illustre Chapatin, le Chapatin dont je veux raconter l'histoire. J'en suis fâché pour les Beaucairois, mais tout historien qui ne s'appelle pas Capefigue se doit à la vérité seulement. Donc, Beaucaire a ses belles promenades nombreuses du bord du Rhône. Beaucaire a son canal majestueux et limpide. Beaucaire a sa grande forêt, la foire de Beaucaire. Mais Beaucaire n'a pas Chapatin. Chapatin appartient tout entier à Tarascon, où il naquit dans le beau mois de mai 1820, sur la place du marché, à main gauche. Et maintenant que Beaucaire se console, de Beaucaire à Tarascon, il n'y a qu'un pont à traverser, et l'on est, moyennant deux sols, dans le pays de Chapatin. Si je n'écrivais que pour les brunes populations comprises entre Marseille et le Pont-Saint-Esprit, Constat, Venessin, Languedoc et Provence, certes je n'aurais pas eu la prétention d'apprendre à mes lecteurs ce que c'est que Chapatin. Mais le Figaro, s'adressant aux cinq parties du monde, je dois dire à celles des parties du monde qui ignorent encore que Chapatin est un autre Jules Gérard, plus grand peut-être que l'autre, ou son égal tout au moins, Pécaire. Autour de ce nom de Chapatin, modeste comme la petite fraise des bois, il n'a manqué qu'un peu de bruit imprimé et quelques réclames parisiennes. Eh bien, ce bruit qu'on n'a pas fait pour toi, moi je veux le faire, ô Chapatin. Je veux le faire aujourd'hui, avec mes phrases retentissantes. Je veux, autour de ton chapeau de chasseur, provençal, tresser une couronne glorieuse, avec des alinéas d'inégale longue grandeur, cependant que là-bas, insoucieux de toute gloire, tu te promènes paisiblement dans ton petit jardin de la place du marché, en fumant la pipe de terre rouge, dite marseillaise, les pieds dans des babouches algériennes, et arrosant les chrysanthèmes comme un employé à 18 cents. Chapitre 2. Ce qui fut dit un soir chez l'armurier Tolosan. Avant d'être l'illustre Chapatin, le tueur de lion, Chapatin était seulement Monsieur Chapatin, le plus adroit tireur de la bonne ville de Tarascon. Tous les dimanches matins, quand les 18 chasseurs tarasconnais prenaient les armes, qui choisissaient-ils pour diriger la battue au perdreau ? Chapatin. Tous les dimanches soirs, quand les 18 chasseurs tarasconnais revenaient de la battue, qui rapportaient toujours un petit cul blanc, seule victime de la fameuse chasse aux perdrix ? Chapatin. Et quand les 18 chasseurs tarasconnais se réunissaient dans les magasins de l'armurier Tolosan pour causer de leur art après-souper, qui présidait régulièrement ces séances synergétiques? Chapatin. Qui avait le meilleur plomb, le fusil le plus sûr, le carronnier le plus commode? Chapatin. Et qui cassait toutes les poupées au tir au pistolet? Qui savait au besoin briser avec une balle une pipe entre les dents d'un enfant ou d'un soldat? Chapatin. Chapatin toujours, toujours Chapatin. Et pourtant, qui l'aurait pu croire, tout cela ne satisfait point. Or, un soir, qu'on était réunis chez l'armurier Tolosan, on vint à parler des chasses fabuleuses de Jules Gérard. Chacun s'extasiait à son tour sur l'adresse du tueur de lions, sur son sang-froid, sur son courage. Et tout à coup, un des 18 chasseurs du Tarascon, le plus maladroit et le plus jaloux, décocha cette phrase venimeuse en pleine poitrine à Chapatin. « Dis donc, Chapatin, si vous alliez tâter un peu de ce gibier-là, hé ?» Chapatin, qui se taisait depuis un bon moment, répondit le plus simplement du monde, « Ben, j'y songeais. » La chasse en resta là. Et comme il était très tard, la belle Madame Tolosan renvoya les 18 chasseurs dans leurs 18 foyers, on ferma les volets de la boutique et les 18 Tarasconnais disparurent dans les rues pleines d'ombre. Chapitre 3. Grande nouvelle à Tarascon. À quelques jours de là, le bruit se répandit dans la ville que Chapatin avait commandé chez Bompard deux grandes malles en cuir jaune à coin de cuivre, puis un sac de nuit gigantesque. Cette nouvelle circulait depuis quelques heures quand la femme d'un des 18 rencontrant Chapatin sur l'esplanade lui dit « Bonjour, monsieur Chapatin, est-ce que vous allez faire un voyage ?» Chapatin répondit « Je compte de partir prochainement pour l'Afrique où je vais chasser le lion. » 5 minutes après cette parole mémorable, toute la ville était chez Chapatin. « Oh, ça vous plaisantez ! Qu'est-ce qu'on vient de m'apprendre ?»« Voyons, Chapatin, que diable !» et plusieurs choses de ce genre. Chapatin tint tête à l'orage. Sa réponse fut courte et digne. Son parti était bien pris, rien ne saurait l'arrêter. Depuis longtemps déjà, nos petites chasses d'Europe ne lui suffisaient plus. Il avait besoin de quelques émotions vigoureuses. Certes, il ne se dissimulait pas les sérieux dangers qui l'attendaient. Le pays était malsain, les jours très chauds, les nuits très froides. Mais enfin, il se couvrirait bien, il emporterait tout ce qu'il faudrait. Quant au lion, il n'en parlait pas. Tout le monde savait à Tarascon la sûreté de son tir, la bonté de ses armes, la solidité de ses poings. Et d'ailleurs, ici levait un œil au ciel avec une demi-larme, s'il arrivait un malheur, si le lion d'un coup de griffe, bah, autant cette mort-là qu'une autre. Ce jour-là, les jours suivants, Chapatin fut le héros de Tarascon. Avoir Chapatin à sa table était un honneur, réservé seulement à quelques-uns. On aimait à l'interroger, à le faire causer sur ses chasses futures, devant une nappe bien blanche, ou le soir au coin du feu en prenant le café. Chapatin, qui avait lu en quelques jours tout ce qui s'est publié sur les chasses d'Afrique, connaissait ces choses par cœur et les racontait avec verve. Il disait les nuits sans lune, les marées pestilentielles, les neiges, les soleils ardents, la vigueur fabuleuse des lions, leur férocité est longtemps méconnue. À ces effroyables récits, les hommes hochaient la tête en signe d'assentiment, les femmes poussaient des cris d'effroi, les vieillards goutteux brandissaient leurs béquilles belliqueusement, et dans la chambre à côté, en entendant ces histoires formidables, les petits garçons, qu'on couche de bonheur, avaient grand-peur et demandaient de la lumière. Chapitre 4. Chapatin se prépare. Sur ces entrefaites arriva à Tarascon un montreur d'animaux dont la ménagerie contenait, entre autres merveilles, un lion africain. Grâce à Chapatin, la ménagerie eut un succès fou. Tout Tarascon voulut voir cette fameuse bête que le chasseur tarasconnais devait combattre. Et quand Chapatin entra dans la salle, la foule s'écarta respectueuse et frémissante. Chapatin s'approcha de la cage et simplement, sans ostentation, se mit à regarder fixement la bête farouche qui rugit effroyablement. Le lion avait flairé son ennemi. Chapatin revint tous les jours. Il passait de longues heures devant la cage de l'animal, étudiant ses allures et s'aguerrissant à ses cris. Puis, la nuit, quand Tarascon dormait, la sentinelle de la caserne de cavalerie le voyait rôder autour des planches de la ménagerie pour se faire au beuglement du lion dans la nuit sombre. Ô fragilité des engouements de Tarascon ! Un mois après que le projet de Chapatin fut connu, on commença à trouver par la ville que le tueur de lion tardait beaucoup à se mettre en route, comme s'il s'agissait d'une battue au perdreau. Un des 18, le maladroit et jaloux, assura même un jour que Chapatin ne partirait pas. Au-dessus des cris ahuris de la foule, impassible comme toujours, Chapatin prenait son temps. Il inspectait ses carabines, affilait ses couteaux de chasse, essayait de nouveaux revolvers, faisait ajouter chaque jour une poche nouvelle au fameux sac de nuit, et il avait fait venir de Paris une petite pharmacie portative contenant de l'alcali, de l'arnica, du sparadrap, des bistouris, de la charpie et du vinaigre des quatre voleurs. Enfin, un soir que les 18 chasseurs tarasconnais étaient réunis, selon l'usage chez l'armurier tolosan, ils virent entrer Chapatin, un peu pâle, quoique très calme, lequel Chapatin leur annonça qu'il voulait faire ses adieux. Un hourra général accueillit cette déclaration. On fit apporter de la bière et des croquants. Il y eut des toasts portés de part et d'autre. On força la belle Madame Tolosan à se lever pour embrasser l'intrépide aventurier. Chapatin, toujours galant, lui promit en revanche la peau du premier lion qu'il tuerait. Le lendemain, vers 2 heures, une foule innombrable encombrait les rues qui vont de la place du marché à la gare. Bientôt, Chapatin parut, coiffé d'une énorme chéchia, bonnet turc, crânement planté sur le derrière de la tête. Une grosse ceinture algérienne s'envolait large d'un demi-mètre autour de sa robuste poitrine. Des houseaux Louis XV, bouclés sur le côté, lui montaient jusqu'à mi-jambe. Des portes faibles et derrière, avec les deux malles de cuir jaune pleines d'arbres, et le gros sac de nuit contenant les hardes de Chapatin et sa pharmacie. Les 18 chasseurs tarasconnais entouraient leur président, qui causait familièrement avec eux. Quand on arriva au chemin de fer, l'orphéon tarasconnais entonna une très belle cantate. Chapatin embrassa tout le monde, mais c'était le moins ému de tous. Le chef de gare, un vieil Africain de 1830, lui serra la main comme à un brave. On vit des hommes d'équipe qui pleuraient dans des coins. Chapitre 5. Chapatin s'embarque, ses houseaux Louis XV le gênent beaucoup. Le wagon dans lequel Chapatin prit place était plein de dames de Paris, que son accoutrement surprit un peu. Une petite blonde très curieuse lui demanda où il allait. Chapatin répondit qu'il allait chasser le lion. Étonnement! Cri d'effroi, triomphe! L'orgueilleux Chapatin passa dans ce wagon les plus belles heures de sa vie. À Marseille, il ne s'arrêta pas. Juste le temps qu'il fallait pour acheter quelques revolvers de plus et retenir sa place, bord du paquebot Le Zouave, compagnie Touache, qui partait le lendemain matin à 10 heures. Bien longtemps avant le moment fixé pour le départ, Chapatin était à bord avec ses caisses d'armes, son sac de nuit, sa pharmacie, sa chéchia et ses houseaux. De la rive, les Marseillais regardaient non sans étonnement ce singulier passager qui se promenait sur le pont avec un bonnet rouge et le grand guêtre. La traversée fut longue, les vents hostiles, la mer mauvaise. Le navire tint bon contre la tempête, mais Chapatin fut malade. Pendant 2 jours et 2 nuits, le tueur de lions, en proie à des souffrances horribles, resta sans boire ni manger, sur une couchette large de quelques pouces, dans une cabine privée d'air, sans avoir la force de quitter ses houseaux qui lui coupaient les jambes, ni de déplacer sa ceinture algérienne qui l'étouffait. Au milieu des douleurs de Chapatin, sa fidèle chéchia n'avait pas abandonné, mais hélas, elle n'avait plus ses allures victorieuses du départ. Et peu à peu, dans les secousses du navire, elle avait fini par descendre sur les yeux et les oreilles de son maître, comme un simple casque à mèche. Chapitre 6. Le pays du lion. Le premier soin de Chapatin, en débarquant à Alger, fut, comme vous pensez, de déboucler ses houseaux, dont les ferrettes étaient marquées en rouge dans le gras de ses jambes. Il desserra aussi sa ceinture écarlate, et rendit à sa chéchia les nobles poses du temps passé. Avant d'ouvrir la chasse, Chapatin se donna 2 jours de repos et se promena dans Alger. Mais déjà, il était trop exclusivement tueur de lions pour que le spectacle de cette ville, la plus pittoresque et la plus bariolée du monde, pût le distraire ou l'intéresser. ni les biscrits aux jambes nues, ni les nègres de Tombouctou, ni la voix mélancolique des médecins, ni les mauresques dans leur linceul blanc, ni les négresses vêtues de cotonnades bleues, ni les maures élégants parfumés à la verveine, ni les maltais aux chapeaux ronds et retroussés, ni les marabouts en gros turbans, ni les mahonnaises au teint de brique, ni les russes, ni les anglais, ni les turcs, ni les touaregs au visage mi-voilé, ni les petits marchands de violettes, rien ne sut attirer l'attention de Chapatin. Au Lyon d'abord, se disait l'intrépide Tarasconnais. Le troisième jour de son arrivée, Chapatin, qui, pour frapper un peu plus grand coup, n'avait soufflé mot de ses projets à personne, Chapatin donc glissa sournoisement deux lingots de plomb dans le meilleur de ses fusils et s'en alla flâner aux environs. Il fut étonné d'y trouver de nombreuses maisons de campagne et quelques jardins potagers. N'était-ce pas une bien grande imprudence de venir planter des artichauts dans le voisinage du Lion? Sa surprise ne fut pas moins grande de rencontrer, chemin faisant, force chasseurs aux allures paisibles, allant à droite et à gauche, avec leurs chiens et leurs carnassières. Cette façon patriarcale de chasser le lion l'intrigua tellement qu'il se décida à aborder un de ces messieurs. « Eh bien, mon brave, et cette chasse ?» fit Chapatin avec cette familiarité qu'autorise la communauté des professions. « Pas mal, pas mal, » répondit le chasseur algérien. « Vous en avez tué ? Vous voyez plutôt ma carnassière ? Comment votre carnassière ? Est-ce que vous les mettez dans votre... »« Où voulez-vous que je les mette ?» dit l'Algérien. Et pour le convaincre, il tira de son sac une demi-douzaine de bécassines. « Est-ce des bécassos ?» hurla le Tarasconnais stupéfait. « Oui, très belle, comme vous voyez. »« Ah, oh, mais ça, vous ne chassez donc pas le lion, vous ?» « Le lion ?» Et l'Algérien, encore plus stupéfait que le Tarasconnais, le regarda un moment de tous ses yeux. « Le lion ?» Puis, croyant que son interlocuteur avait voulu se moquer de lui, il tourna le dos en grommelant. « Mauvais farceur !» Chapatin, remis de sa stupeur, commença à comprendre que ces messieurs n'étaient que des chasseurs de mécassines. Il continua donc à battre la plaine, dans l'espoir de rencontrer le gros gibier qu'il désirait, mais ses recherches furent vaines. Le soir, il rentra à Alger, un peu troublé, et surtout très étonné qu'en Afrique on pût chasser autre chose que le lion. Après tout, il n'y en avait peut-être pas aussi près de l'octroi. Chapitre 7 D'un conducteur qui avait mangé du lion. Chapatin, avant de s'engager dans une nouvelle expédition, prit quelques informations par la ville. De toutes les personnes qu'il interrogea, aucune n'avait vu de lion, aucune ne désirait le voir. « Mais encore, disait Chapatin, si l'on tenait de rencontrer un... »« Oh, dans ce cas, il faudra aller loin vers le sud. » Et là-dessus, on causait d'autre chose. « Allons vers le sud !» dit le Tarasconnais. Et du coup, il fit charger ses caisses d'armes, son sac de nuit et sa pharmacie sur la diligence de Blida. Lui-même se hissa péniblement sur l'impérial, plus que jamais coiffé de sa chéchia, plus que jamais sanglé dans sa ceinture rouge, plus que jamais chaussé de son rouseau Louis XV. Le conducteur de la diligence était un provençal. Celui-là, par exemple, en avait vu des lions et des hyènes. À ce coin de bois, à cet autre, là-bas, derrière ses lentisques, ici devant ses deux tuyaux, un autre jour de l'autre côté de cette petite rivière, Chapatin était ravi. À la première station, il régala le conducteur d'un superbe champoreau, c'est une liqueur nationale composée d'eau-de-vie et de café. Il voulut faire descendre sa caisse d'armes pour l'installer dans ce bienheureux paysage si riche en lions. Mais le conducteur, qui tenait à ses champereaux à venir, ne lâcha pas son Chapatin. Depuis longtemps, il n'y avait plus de lions dans ces parages, Un règlement de police les avait interdits. Pour en trouver, il fallait continuer vers le sud. Puis en continuant vers le sud, fit l'héroïque Chapatin en remontant sur l'impériale. À Douéra, nouvelle station, nouveau Champoro, ditto à Boufari. De station en station, de Champoro en Champoro, le conducteur provençal finit par avouer à Chapatin qu'il avait mangé du lion. Quand on entra dans Blida, il n'en était plus à lui cacher qu'il en avait tué quelques-uns. Chapitre 8. La nostalgie du lion. À Blida, notre Tarasconnais ne rencontra pas de lion, mais il trouva les officiers du 3e hussard, qui furent très polis avec lui, le firent déjeuner à leur table d'hôte, le grisèrent fortement, et l'emmenèrent ensuite contempler les gorges de la Chifa, admirable ravin qui arrose le ruisseau des singes. Le paysage était splendide. À droite et à gauche, des montagnes à pic, toutes noires de verdure, des roches éboulées, grosses comme des cathédrales, une végétation splendide, thuyas, caroubiers, palmiers nains, oliviers sauvages, lentisques, lauriers roses, des nuées de petits singes roux sautillant de branche en branche, en poussant des couic-couic déchirants. Tous les officiers du hussard s'extasièrent sur les beautés de la nature et se livrèrent à de petites improvisations poétiques. Seul Chapatin n'admirait pas. Cet homme avait la nostalgie du lion. Il aurait voulu entendre la voix solennelle du roi des animaux retentir parmi ces roches sonores. Alors seulement le paysage l'aurait charmé. Malgré tous ses efforts, le 3e hussard ne put retenir Chapatin à Blida, seulement un jour de plus. On le laissa donc partir pour Miliana, en lui donnant des lettres de recommandation près le chef du bureau arabe qui devait lui faire faire la connaissance d'un indigène nommé Ahmed. Cet Ahmed était un formidable tueur de lions. Il serait sans doute indiqué à Chapatin l'endroit le plus favorable à ses héroïques exercices. Chapitre 9. Une panthère. À Miliana, Chapatin apprit du chef du bureau arabe que le chasseur Ahmed était mort depuis 5 à 6 ans. Bon, se dit le Tarasconnais, un de moins. D'ailleurs, reprit le chef du bureau, depuis longtemps le lion a déserté le Bonsascar et les environs de Miliana. Si pourtant vous voulez pousser jusqu'à Orléansville, oh, je crois, mon cher monsieur Chapatin, qu'il y a là un joli coup de fusil à faire là-bas. On parle d'une très belle panthère. Chapatin, une panthère, fi donc. Notre héros remercia l'employé de ses renseignements. Toutefois, réflexion faite, il jugea à propos de monter avec ses caisses d'armes, son sac de nuit, sa pharmacie, sa ceinture algérienne, ses houseaux Louis XV et sa chéchia sur la diligence d'Orléansville, ne fût-ce que pour se rapprocher de ce sud étonnant où fleurit le roi des animaux. En entrant dans Orléansville, Chapatin eut un grand crève-cœur. Il rencontra un groupe de mendiants arabes, pouilleux, vermineux, menant en laisse un superbe lion, apprivoisé et aveugle, qu'il promenait par les bourgades comme nos petits Savoyards promènent leurs marmottes. Infamie des infamies! Leur dit le Tarasconnais indigné. Vous pouvez tuer ces belles bêtes, mais les ravaler, jamais! Les Arabes crurent qu'on leur demandait où ils avaient pris le lion, et ils firent signe vers le sud, en agitant leurs grands bras à plusieurs reprises, comme pour dire oh, « Loin, 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 bien loin !» Chapatin se promit de continuer sa route, mais pour se remettre de ses fatigues, les diligences algériennes sont très dures aux pauvres voyageurs, il s'accorda 2 jours de congé, qu'il alla passer dans un caravansérail de la plaine, autour duquel on avait vu rôder, disait-on, une énorme panthère. Au moins, pensa Chapatin, je vais pouvoir envoyer une peau de panthère à la belle Madame Tolosan. Ça lui fera prendre patience. Inutile de dire que ses caisses d'armes, son sac de nuit, ses houseaux Louis XV et le reste l'accompagnèrent dans cette expédition. Chapitre 10. L'affût du soir dans un bois de laurier rose. Le caravansérail était situé à 1 heure environ d'une petite rivière où de plusieurs lieues à la ronde, les fauves venaient se désaltérer tous les soirs. C'est là que Chapatin devait se rendre s'il voulait surprendre la panthère. Les gens du caravansérail avaient entendu rugir de ce côté. Donc, vers les 6 heures de l'après-midi, le chasseur se mit en route, portant un fusil sur chaque épaule, à sa ceinture un long couteau de chasse et un revolver. Dans ce belliqueux accoutrement, il dut traverser un camp de chasseurs d'Afrique, revenant d'une expédition dans l'intérieur et regagnant leur quartier d'Alger. Les tentes étaient dressées, les feux allumés, les chevaux au piquet. Les soldats préparaient la soupe, les officiers jouaient aux trois sauts. Tous virent passer avec étonnement l'intrépide Chapatin qui traversa le campement sans sourciller, la tête haute et ses deux fusils sur l'épaule, comme représente Robinson Crusoe. Le soir tombait. C'était l'heure où la couleur violette, chère au crépuscule d'Orient, envahit la nature. Les chacals commençaient à aboyer. On voyait vaguement des formes inconnues se glisser derrière les broussailles. Le bon Tarasconnais marcha longtemps devant soi. Enfin, une fraîcheur soudaine vint l'avertir qu'il approchait de la rivière. Et bientôt, il vit l'eau reluire aux dernières clartés du jour. Il s'installa commodément dans un petit bois de laurier rose. En face, sur l'autre berge, un bois touffu de lentisques allait s'assombrissant de plus en plus, et l'on distinguait à peine, encore sur le sable jaune, les traces faites par les fauves pour descendre jusqu'au lit de la rivière. Chapatin piqua son couteau dans le sol devant lui, mit un de ses fusils à son côté, arma l'autre et attendit. Les grues passaient sur sa tête à de grandes hauteurs en chantant lamentablement. Il songeait à ses amis. Il revoyait les boutiques de Tarascon, la place du marché. Oh, c'était l'heure où on allumait le gaz. La panthère était un animal bien dangereux et bien rusé. Ici, un bruit dans les feuillages le fit tressaillir. La nuit était bien noire, pas de lune. Il entreprenait là une chasse qu'il ne connaissait pas du tout. C'était s'exposer bêtement. D'abord, il était chasseur de lions. De quoi se mêlait-il? Ici, un chacal s'approcha très près de lui. Le froid commençait à le saisir. Il ne voyait plus son point de mire. Notre-Dame de la Garde veillait sur nous. Au bout d'un quart d'heure de monologue, le tueur de lions, pris d'un accès de peur, mais d'une peur nerveuse, folle, irraisonnée, d'une rage de peur, enfin, ramassa ses fusils, et bondissant à travers le petit bois de laurier rose, se mit à fuir les dents serrées vers le caravansérail, dont on voyait les croisées briller dans le sombre lointain. Sur le sable de la rive, le couteau de chasse resta planté, pareil à ces croix commémoratives qu'on trouve dans les campagnes désertes, et qui toutes rappellent un crime ou un accident. Chapitre 11. Le soir d'un jour de marche. En se réveillant le lendemain matin dans une chambre remplie d'un joyeux soleil, au milieu du caravansérail plein de bruit et de mouvement, Chapatin rougit de ses faiblesses de la veille et jura de s'en venger sur le premier lion qu'il rencontrerait. Un arabe, domestique au caravansérail, ayant appris le désir du Tarasconnais, lui proposa de le conduire au Matmatas où il trouverait sûrement son affaire. Voilà mon Chapatin aux anges. Vite une carriole pour lui et ses bagages. L'arabe monte sur le siège, prend les rênes et fouette cocher. On marchait depuis quelques heures et la chaleur commençait à devenir accablante. Quand le Tarasconnais eut la bonne idée de faire une petite halte à l'ombre épaisse d'un bouquet de figuiers de Barbarie. Il passa donc sa carabine à ses côtés, fit signe à l'arabe de ne pas trop s'éloigner et s'endormit profondément sur l'herbe. Quand il rouvrit les yeux, Chapatin regarda autour de lui. Oh, stupeur! L'arabe et sa carriole avaient disparu. Un frisson subit traversa le corps de l'infortuné chasseur. Toutes les histoires qu'on lui avait contées sur la mauvaise foi des arabes lui revinrent à l'esprit. Il voulut courir, appeler, jurer, pester, supplier. Rien n'y fit. L'arabe et sa carriole s'étaient très sérieusement évanouis. Et maintenant, qu'allait-il faire? Le voleur avait emmené avec la carriole les deux caisses d'armes, le sac de nuit et la pharmacie et tout. Il ne restait plus à Chapatin que sa carabine, des balles, de la poudre, sa ceinture, sa chéchia et ses houseaux Louis XV. Pouvait-il s'aventurer ainsi dans une chasse aussi périlleuse? Raisonnablement, pouvait-il attaquer le lion sans son alcali, son sparadrap, son indica, etc., etc.? Non, non, pas de bravades inutiles. Il n'y avait pour le moment qu'une chose à faire, retourner au caravansérail, envoyer sa déposition au bureau arabe, et attendre qu'on eût retrouvé le voleur, les caisses d'armes, le sac de nuit et la pharmacie. La justice militaire est prompte, ce ne serait pas long. Les choses étant ainsi, Chapatin s'orienta vers le caravansérail, dont il était éloigné d'au moins 7 bonnes lieues, et reprit sa route d'un pas nerveux, pour ne pas arriver trop avant dans la nuit. Tout en marchant, il jurait comme un damné, s'irritait de ses nombreux contretemps, et songeait amèrement que la belle Madame Tolosan attendait toujours la peau promise. Chapatin marchait depuis 2 heures, et le soleil commençait à descendre à l'horizon, quand, au détour d'un petit bois, au bord d'une mare presque à sec, le Tarasconnais s'arrêta stupéfait. Là, en face de lui, à quelques pas à peine, un lion énorme, énorme, reposait, la tête entre ses pattes. D'abord, Chapatin eut froid, puis il eut chaud, puis enfin il se remit et n'eut ni froid ni chaud. Une pensée pour ses amis, un regard pour ses amorces, ce fut l'affaire d'une seconde, et calme, il s'abrita derrière un buisson. Le lion ne bougeait pas. Chapatin attendit un moment que sa majesté voulut bien se réveiller, puis, impatienté de ce long sommeil, il commença à agiter son buisson, en faisant vrrr, vrrr. Le lion ne bougea pas. Chapatin lui lança de petits cailloux et finalement une pierre. La colère commençait à le gagner à la fin. Chapitre 12. D'une peau de lion qui coûta très cher à Chapatin. Alors le lion se leva. Il se leva lentement, promena autour de lui sa grande face majestueuse, agita sa crinière comme un drapeau et assura ce fauve pavillon d'un bâillement formidable. Oh « On joue, feu !» Les échos eurent une double besogne. Le lion, avec une balle dans chaque œil, tomba lourdement sur ses pattes. Ce coup double était un coup rêvé par Chapatin lors de ses visites à la ménagerie de Tarascon. Ivre de joie, le héros tarasconnais sortit de sa cachette en entendant un chant de triomphe. Et des cris de rage, des hurlements de douleur répondirent au tédéum de Chapatin, en même temps qu'une demi-douzaine d'Arabes, venus on ne sait d'où, l'entourait avec une pantomime menaçante. Il lui montrait le lion mort, et en agitant leurs bras velus, semblait dire « Mais pourquoi l'as-tu tué ?» Le tueur de lion, après un moment de stupeur, comprit enfin ce qu'il avait fait. Le bien qu'il venait d'abattre était le lion aveugle et apprivoisé qu'un promenait dans Orléansville, et les Arabes étaient ses cornacs. Dès lors, tout s'arrangea. Chapatin paya aux arbicots le lion qu'il avait tué. Il se réserva seulement la peau, compromis de préparer et de lui envoyer à Alger. Entré à Orléansville, il se garda bien de faire chercher son voleur. Il préféra payer au caravansérail la carriole et le cheval, et perdre sans retour ses armes, son sac de nuit et sa pharmacie, plutôt que s'exposer à ébruiter ses mésaventures. Une fois les comptes réglés, Chapatin se décida à rentrer à Alger. Son malencontreux coup de fusil l'avait dégoûté profondément de la chasse au lion, mais non pas de la gloire qu'elle procure, car dès qu'il eut la peau de sa victime, il l'envoya à la belle Madame Tolozan, avec une lettre des plus émouvantes, qui fut reproduite par tous les journaux du Midi, et dans laquelle il racontait les horribles dangers qu'il avait courus pour tuer son premier lion. Chapatin annonçait dans la même lettre qu'il resterait encore pendant 3 mois en Algérie à continuer cette chasse qui débutait si heureusement. Ces 3 mois, le Tarasconnais les passa dans une jolie maison de campagne qu'il avait louée aux environs d'Alger, et pendant tout ce temps, il se livra exclusivement à la chasse à la bécassine, comme ces chasseurs algériens dont il s'était tant moqué. Tous les 15 jours environ, il écrivait au 18 de Tarascon pour annoncer la mort d'un nouveau lion. Oh, s'il n'envoyait pas les peaux, c'est que la balle les avait gâtés. Quand Chapatin rentra dans sa ville natale, il faillit être noyé sous une pluie de roses. Alphonse Daudet.